Alors, on va continuer notre 17e leçon sur la sanctification. On avait commencé la semaine dernière, on va faire la deuxième partie. Le titre, c'était « L'Église que Christ a bâtie ». On avait vu cinq choses, c'est-à-dire, il y a cinq choses qui étaient prévues de donner dans nos leçons, on avait vu trois. On avait vu que l'Église, c'est un édifice, bien sûr dans le sens spirituel, et qu'elle a un bâtisseur et qu'elle a une solide fondation. On va juste réviser très, très rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, on a vu que l'Église de Christ est un édifice. Ce n'est pas une bâtisse matérielle. Ce n'est pas une église particulière visible sur la terre comme l'Église presbytérienne ou quelques autres dénominations que ce soit. Ce n'est pas non plus l'Église catholique. Et, bien sûr, c'est l'Église de Christ qui est composée de tous les authentiques croyants en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. l'Église, on sait que, deuxième point qu'on avait regardé, c'est que a un bâtisseur, et que ce bâtisseur-là, bien sûr, c'est Christ lui-même, parce qu'il dit « Je bâtirai mon Église ». On avait vu que Christ était celui qui donnait souverainement la vie spirituelle, que c'est lui qui lave les péchés, qui donne la paix, qui donne la vie éternelle, qui donne la repentance, qui donne aussi aux hommes le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, et qui a celui qui a initié notre foi et qui va la rendre jusqu'à son accomplissement. C'est ce qu'on avait regardé dans les deux premiers points la semaine dernière. Et le troisième point, c'est qu'on avait vu que l'Église a une solide fondation et que cette fondation-là, c'est Christ lui-même. On avait vu le passage de Matthieu 18 où Simon-Pierre, le Seigneur lui repose la question, puis Simon-Pierre lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et répondant, Jésus lui dit, « Tu es bienheureux, Simon Barjonas, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui te l'a révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, à quelque part, le salut est révélé par le Père. Pierre comprenait que Christ était, que Jésus était le Christ annoncé dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur lui fait bien comprendre que s'il comprend ce fait-là, ça ne vient pas de lui, ça ne vient pas de son intelligence et de ses déductions, ça vient d'une révélation et d'une grâce que Dieu lui a fait. On était rendu au quatrième point. Le quatrième point, c'est que l'Église implique des ennemis et des périls. L'Église a connu des combats, des épreuves et des persécutions. L'expression qu'on a vue de « les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles » fait bien sûr référence à la guerre que va lui faire Satan. Satan va faire la guerre à l'Église, peu importe où on se trouve. Même si nous, on ne le voit pas sous forme de persécution, comme on a vu tantôt, il peut le faire sous une autre forme qui est encore plus dangereuse, c'est que celle de nous endormir, et celle de nous faire rentrer trop dans le matérialisme, c'est aussi dangereux que les autres. Alors, Satan a toujours été en guerre contre les croyants de toutes les époques. Quand on étudie l'histoire de l'Église, c'est quelque chose qu'on voit d'une façon très, très, très claire. Dans Hébreux, chapitre 11, les versets 36 à 38, on l'appelle souvent Hébreux 11, le passage des héros de la foi, parce qu'on nous montre que ceux qui ont été fidèles au Christ à travers les époques, qui ont été fidèles à leur foi, ont subi des très mauvais traitements. Hébreux 11, 36 à 38. Alors ici, il donnait des descriptions un peu de tout cela. Il dit, « Tandis que d'autres passèrent par l'épreuve des moqueries et des verges, et même des liens et de la prison. » Si vous faites l'histoire de l'Église, vous regardez en travers tous les siècles, il y a toujours des gens qui ont été moqués, qui ont été fouettés, qui ont été emprisonnés ou maltraités. Verset 37, « Ils furent lapidés, ils furent sciés, ils furent tentés, ils moururent tués par l'épée, ils errèrent là, ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, affligés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, égarés dans les déserts et les montagnes, et les cavernes et les ouvertures de la terre. » Alors, il est en train de démontrer que tous ceux qui ont cru au Seigneur, dans le passé, ont subi des choses très difficiles, bien entendu. Et on pourrait ajouter à tout cela, si on étudie en détail l'histoire de l'Église, à partir du premier siècle, chaque siècle a eu ses choses et dans des différents pays. Donc la première chose, c'est que Satan a toujours été en guerre contre les croyants de toutes les époques. La deuxième chose, c'est que les croyants doivent prendre conscience qu'ils sont en guerre. Bien sûr, nous autres, quand on vit tous les jours, on n'entend pas de bruit de bombe, on n'entend pas de personnes qui sont blessées, on n'entend pas des choses que les gens qui sont dans des théâtres de guerre, comme on dit, voient eux autres quotidiennement. Nous, on ne voit pas ça. À quelque part, nous, les êtres humains, quand on ne voit pas quelque chose, on est porté à penser que ça n'existe pas. Alors, on est en guerre parce que les Écritures nous disent qu'on est en guerre. Éphésiens, chapitre 6, versets 11 et 12. « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les artifices du diable. Parce que ce n'est pas contre le sang et la chair qu'est notre lutte, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs universels des ténèbres et de ce siècle, contre les puissances spirituelles et la méchanceté dans les lieux célestes. » Alors, si... Moi, je pense que si le Seigneur permettait qu'on voit ce qui se passe autour de nous, les esprits qui cherchent à influencer nos vies, à nous faire tomber dans le péché, à nous détourner de la foi, je pense qu'on serait littéralement mort de peur. Parce que c'est des choses qu'on ne voit pas, donc à quelque part, on est porté à penser, bon, ça n'existe pas. Pourtant, le Seigneur nous dit de se revêtir de l'armure complète de Dieu. Alors, dans les versets 13 à 18, dans le même passage d'Éphésiens, il veut nous faire comprendre la nature du combat et il veut nous faire comprendre aussi de bien utiliser les ressources défensives et offensives. Parce que dans l'intérieur du passage, ce qu'on voit, il dit, c'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité et ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant chaussé vos pieds de la préparation que requiert la bonne nouvelle de la paix, ayant pris par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, priant en tout temps dans l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela avec toute persévérance et avec supplication au sujet de tous les saints. Si on lisait, là, puis on prenait le temps d'analyser ce que le Seigneur est en train de nous dire, là. Priant en tout temps, par l'Esprit, dans toutes sortes de prières et de supplications, veillant à cela avec toute persévérance et avec supplication au sujet de tous les saints. Ça veut dire que l'habitude qu'on pourrait prendre, juste pour notre petite église locale, de prendre la liste des membres et de prier pour chacun d'eux tous les jours, c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ça fait partie des âmes qui nous laissent. Si on ne les utilise pas, les âmes qu'il nous donne, bien c'est nous qui subissons les conséquences de toutes ces choses-là. Troisième chose qu'on se doit de regarder dans le fait que l'Église implique des ennemis et des périls, c'est que les croyants doivent faire preuve de patience. Alors, n'oublions pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces choses-là tendent à nous sanctifier, à nous garder éveillés, à nous humilier et à nous rapprocher de Christ. Elles contribuent aussi à nous faire mépriser le monde et sa séduction, nous incitent à prier davantage et à nous faire languir du désir pour le ciel. N'est-ce pas qu'il arrive un moment dans la vie, après qu'on a fait plusieurs années de vie chrétienne, qu'on languit après le ciel, on a hâte de sortir de ce monde. On a hâte d'entrer dans la présence de Dieu. On a hâte de commencer à jouir de tout ce qui nous est promis dans les Saintes Écritures. Matthieu 5, verset 11. « Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. » Vous serez heureux. Bizarre, parce que des fois, quand on parle du Seigneur autour de nous autres, ça peut arriver que ça nous amène des réactions violentes autour de nous autres. Puis parfois, à ce moment-là, on n'est pas porté à rayonner de joie. Hein. Oh mon Dieu, il m'a fait mal, il m'a dit une bêtise. Pourtant, les Écritures nous disent bien, vous serez heureux à cause de moi, ce qu'on vous dira. Et dans Luc 6, versets 26 à 28, « Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi que leur père faisait aux faux prophètes. Mais à vous qui écoutez, je vous le dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous outragent. » Ce n'est pas nécessairement facile. On pense que c'est facile, on lit le texte, là. Mais si quelqu'un se met à vous haïr et à vous faire du trouble, de prier pour lui, ce n'est pas évident. Mais souvent, notre cœur, la vieille nature qui est encore en nous a plutôt tendance à vouloir se venger, à les ignorer et à les haïr peut-être même secrètement. Mais c'est pour ça que le Seigneur nous dit de faire. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous outragent. Cinquième point et dernier point, on va regarder que la sécurité de l'Église est assurée. Quand on examine l'histoire des grandes civilisations, on constate que toutes les puissances érigées par les hommes se sont éteintes et ont fini par disparaître. On peut prendre des exemples. L'Égypte, qui a déjà été une puissance internationale très, très grande au temps de Christ, par exemple. Babylone, la Perse, Rome, la Grèce et plein d'autres choses. Donc, c'est des nations ou des puissances qui ont été érigées par les mains d'hommes. Mais tôt ou tard, pouf, ils tombent et ça disparaît. Satan, au cours de l'histoire de l'Église, a utilisé plusieurs armes contre l'Église. Le feu. Il y a des personnes qui ont traduit la Bible, ont été brûlées vifs, attachées à un poteau, là, puis brûlées vifs avec des... Puis dans ce temps-là, c'était pas avec du gaz, là, c'était vraiment, ils mettaient le feu après toi, c'était des branches sèches, là. Ça prenait un temps fou avant que tu meurs. C'était épouvantable. Ça, c'était parce que le malin haïssait tous ceux qui pouvaient chercher à proclamer la parole de Dieu et à la répandre. Alors, il a utilisé le feu, il a utilisé, bien sûr, l'épée, il a utilisé l'emprisonnement, il a utilisé les amendes, parce que souvent, c'est par ton portefeuille qu'ils viennent te chercher. Si tu fais ça, on va te faire payer tant d'amendes. Puis, il a utilisé aussi une multitude de mauvais traitements dans le but de détruire la vitalité de l'Église de Jésus-Christ. Mais il y a une chose qu'il faut se souvenir, que les Écritures nous disent dans Zacharie, chapitre 2, verset 8. « Car ainsi a dit l'Éternel des armées, qui m'a envoyé avec gloire vers les nations qui vous ont pillé. Qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » On est en train de dire que celui qui touche un enfant de Dieu, c'est comme s'il voudrait se mettre le doigt dans l'œil de Dieu. Oh, là, il se met dans le trouble, mais pas à peu près. Alors, les églises de Jésus-Christ ont traversé les périodes de l'histoire. Chaque siècle avait des témoins pour Jésus-Christ. Ce qui est vrai pour l'Église dans son ensemble est aussi vrai pour les vies individuelles des croyants. Par exemple, Jean 18, verset 9. « C'était afin que cette parole qu'il avait dite fût accomplie, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Quand on pense que le Christ construit son Église, on fait partie de son Église, puis peu importe si le malin réussit à nous atteindre par le feu, par l'épée, par la prison, il ne nous atteint pas vraiment. Parce que le Seigneur, il dit ici, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Ceux que le Père a donnés à Christ, il ne perdra aucun. Peut-être qu'ils vont subir des mauvais traitements physiques, des choses comme ça, et des persécutions, des maltraitances, mais jamais... Ils sont sûrs qu'ils vont... Le Seigneur te garde jusqu'à la fin. Ça, c'est une des vérités les plus rassurantes des Écritures concernant la vie chrétienne. Jean 10, versets 27 à 29. « Comme je vous l'ai dit, mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et nul ne les ravira de ma main. » C'est-tu assez rassurant? La main de Dieu, tu es dans la main de Dieu, puis le Seigneur est en train de te dire qu'il n'y a aucune force. Satan en personne et tous les démons et quelques ennemis que Satan peut soulever pour nous éloigner du Seigneur, ils ne réussiront jamais. Parce que verset 29 dit « Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et nul ne peut les ravir de la main de mon Père. » Quel beau verset. Ces versets-là, quand on les lit, ça nous rassure. Quelques applications, j'en ai vu trois. La première, je dirais, posons-nous une question solennelle. Êtes-vous un membre de l'Église de Jésus-Christ? Soyons particulièrement attentifs de bien s'assurer que c'est le cas, car notre destinée éternelle en dépend. Deuxième application, considérons cette invitation solennel dans Matthieu 11, versets 27 à 30. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et nul ne connaît le Fils sinon le Père. Et nul ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils le voudra révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est bon et mon fardeau léger. Alors l'invitation solennelle et la dernière, recevons une exhortation solennelle. Luttons pour une vie authentiquement sanctifiée par une marche digne de citoyens du ciel. Et soyons aussi des lettres connues, des épîtres lues de tous les hommes. Souvent, même si on ne témoigne pas nécessairement de bouche à oreille, notre vie, si elle est sanctifiée, elle est remarquée par les autres comme de quoi on est différent. Alors, les Écritures nous disent, Paul dit, soyez des lettres ouvertes que tous les gens peuvent observer en nous des changements. Luttons aussi pour une vie courageuse. On en a tous besoin. Parce qu'il y a plein de choses que le Seigneur nous demande de faire, que souvent on manque de courage et on manque de persévérance et on manque de constance pour suivre ce que le Seigneur nous donne. Alors, par exemple, témoigner de Christ quotidiennement, témoigner de Christ avec hardiesse et aussi prier pour les âmes perdues autour de nous. Luttons aussi pour une vie joyeuse dans l'attente patiente de sa deuxième venue. Béni soit Dieu pour son ineffable don, la glorieuse personne de Jésus-Christ.